Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6h avant minuit, c'est l'émission quotidienne d'infos locales de Syllab, radio rennaise à écouter sur le 88.4 FM ou en DAB+. Du lundi au jeudi à 18h, d'octobre à juin, l'équipe de la rédaction de la radio sauvage décrypte l'actu de chaque jour, 6h avant minuit. Le lendemain, cet été, on vous propose de réécouter les chroniques de la saison radiophonique passée. Aujourd'hui, compile des chroniques Lumière Basse, la chronique où l'on parle de cinéma, mais pas du dernier Marvel ou du film où tout le monde meurt sauf le chien. Maëva braque la lumière sur les cinéastes que l'on ne voit pas assez.
6 heures avant minuit.
Une nouvelle chronique dans 6 heures avant minuit, ça s'appelle Lumière Basse et c'est signé Maëva.
Bon, voilà, c'est la première, maintenant faut y aller. Alors vous voici dans Lumière Basse, la chronique où on parle de cinéma, mais pas du dernier Marvel ni du film où tout le monde meurt sauf le chien. Ici on braque la lumière sur celle qu'on ne voit pas assez, des cinéastes à contre-courant et surtout qui nous aident à regarder le monde autrement, par la petite fissure dans le mur, un mur qui s'appelle parfois société, violence, silence, genre, classe, bref. On s'intéresse à celle qui éclaire l'ombre sans projecteur géant, qui travaille en contre-jour. Aujourd'hui, je vous embarque dans un cinéma qui ne crie pas, mais qui murmure des vérités, qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, et derrière la caméra, une réalisatrice belge à la voix douce, au regard tranchant et au parcours aussi sinueux qu'un travelling de Godard un jour de gueule de bois, Alex Poukin, notre première invitée par procuration. Alors déjà, fun fact, Alex Poukin n'avait pas prévu de faire du cinéma. Elle aurait pu devenir philosophe, comédienne, ethnologue ou chercheuse en Jordanie. Oui, ça aurait fait une très bonne biographie LinkedIn, mais c'est au milieu de Wadi Rum, ce désert aux airs de science-fiction, qu'elle tombe par hasard et presque par magie sur une bande de documentaristes français. Elle découvre alors l'école documentaire de l'USAS. Résultat, elle rentre en Ardèche, et c'est là, dit-elle, qu'elle vit la plus belle année de sa vie, comme quoi la révolution peut commencer au fond d'un petit village avec des chèvres et une caméra. Mais venons-en à Sans frapper, son film qui, lui, ne laisse personne indemne, sorti en 2019, l'histoire commence avec une confidence. Après la projection de son premier film, une fan lui raconte son viol. 9 ans après les faits, une parole longtemps enfouie. Comme c'est souvent le cas, Alex décide d'en faire un film, mais sans tomber dans le piège du réalisme cru ou de la reconstitution choc, à la place 14 personnes, hommes et femmes, qui interprètent cette même parole. Ada, c'est celle et eux, tous ensemble.
Il ne s'agissait pas d'une histoire individuelle, mais d'une histoire politique, globale, mondiale, et que peu importe à quoi ressemblait Ada, peu importe qui elle était au final, son histoire faisait partie de l'histoire de tous. C'est un problème structurel, ce n'est pas un problème individuel du tout, ni une somme de problèmes individuels.
Ce choix de mise en scène, c'est une façon de dire « le viol n'est pas une scène, c'est une mémoire collective, on ne regarde pas, on écoute et en écoutant, on comprend ».
C'est une femme sur 5. Enfin, on dit que la parole s'est libérée. Moi, j'ai l'impression que la parole, ça faisait des années qu'elle a été libérée. C'est juste que tout d'un coup, il y avait quelqu'un pour écouter.
Et ça résume bien son approche, faire un film sur le viol sans être dans l'horreur ni dans la pitié, mais dans la complexité, celle des émotions, des réactions, des souvenirs. Et dans un monde où tout doit être spectaculaire, elle choisit de ralentir, de regarder autrement, de tendre l'oreille là où d'autres détournent le regard. Et justement, aujourd'hui, 4 juin 2025, sort en salle son tout nouveau documentaire « Sauf qui peut ». Un titre qui sonne comme une alerte, mais qui cache une profonde exploration du monde hospitalier. Dans ce film, Alex nous plonge au cœur des ateliers de simulation médicale où de vrais soignants s'exercent avec de faux patients, incarnés par des comédiens-comédiennes à annoncer des diagnostics difficiles. L'objectif, développer l'empathie, cette qualité humaine essentielle, mais souvent mise à mal dans un système de santé sous pression.
Il y a un scénario pour une femme de 35 ans, homme de 40, un homme de 60.
Je suis très mal à l'aise d'avoir souri quand vous avez dit que votre père il avait eu un cancer. Et votre mère, pareil. J'ai dit très bien.
Mais au fil des séances, la frontière entre jeu et réalité s'estompe. La simulation devient un exutoire révélant les tensions, les doutes et parfois les souffrances des soignants eux-mêmes. Le film interroge alors, peut-on réellement être bienveillant dans une institution maltraitante ? Ce qu'on retient d'Alex Poukine, c'est son attention aux autres. Elle ne s'impose pas, elle capte, elle recueille, elle relie. Elle fait du documentaire comme on tisse un lien, avec soin et avec respect. Merci d'avoir prêté l'oreille à Lumière Basse. À la semaine prochaine. En attendant, éteignez Netflix, ouvrez grand les oreilles et laissez entrer un peu d'ombre.
Mais merci à toi Maëva. À bientôt pour un nouvel épisode.
6 heures avant minuit.
Tu restes avec nous Maëva puisque c'est l'heure de ta chronique Lumière Basse.
Et oui, me revoilà. J'espère que ma chronique vous a manqué. Toujours pas de voix off hollywoodienne, mais la mienne fait le boulot même si elle est un peu malade aujourd'hui. Dans Lumière Basse, on continue à parler de cinéma mais sans red carpet ni bande-annonce qui hurle cet été, il va tout faire péter. Ici, on parle des réalisatrices qui éclairent ce que la lumière elle-même a fui. On dit souvent qu'un film, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, mais parfois, faut pas se concentrer de la fenêtre. Faut sortir, marcher dans les décombres, écouter ce que la ville a à dire, même quand elle ne ressemble plus qu'à un souvenir. Là où la mémoire s'échappe, dans Lumière Basse, on continue à regarder autrement, celle qui tourne en contre-jour, pas pour faire les mystérieux, mais parce que c'est là, dans l'ombre, que le monde commence à parler autrement. Et aujourd'hui, on remonte le temps direction Beyrouth, dans les années 70, pas celui des cartes postales, celui des archives. Celui qu'on porte en soi dans le pays quand le pays s'effondre. C'est là qu'on retrouve notre cinéaste journaliste résistante par l'image, une femme qui a décidé qu'un film pouvait aussi servir à pleurer un pays et à le recoller. Jocelyne Saab, c'est une caméra qui tremble mais qui n'abandonne jamais.
Je pense que j'ai tenté à chaque fois de sortir des sentiers battus de l'écriture cinématographique, du moins quand j'ai démarré, dans ce sens qu'il fallait absolument donner une image nouvelle, une autre image du pays, ou quand j'étais reporter de la guerre, qu'il ne s'agissait pas simplement de jeter l'image comme on fait aujourd'hui aux spectateurs, jeter cette image de violence, ce qui fait qu'il ne comprend plus rien, qu'il ne sait plus où se situer. Et par contre, si on donne une image, même si elle est très personnelle, mais si elle est réfléchie, si elle parle à l'affectif, si elle parle à la douleur des autres, du spectateur, elle lui permet de se situer.
Une femme qui ne filme pas pour faire joli ni pour faire choc, elle filme pour tenir debout. Et ça vaut bien tous les films où les héros courent au ralenti sur fond de musique épique. Née en 1948, Jocelyne Saab aurait pu être Miss Liban parce qu'elle était brillante, charismatique, belle et libre. Mais non, elle a préféré courir sur les terrains de guerre. Elle commence comme journaliste couvrant la guerre civile libanaise. Et puis un jour, elle retourne sa caméra vers elle-même, vers sa ville, pour raconter Beyrouth à la première personne avec ses mots, sa voix.
La guerre impose à une ville détruite des rythmes nouveaux et des situations pour le moins inattendues. Les combattants lisent Tintin, alors que le malheur, comme dans les textes anciens, tombe du ciel.
C'est ma maison. C'est ce qu'il en reste. C'est vrai que cette maison, c'est la tradition, que ça me fait quelque chose au cœur, que c'est 150 ans d'histoire. C'est mon identité aussi.
Elle est de celles qui racontent la guerre non pas pour la montrer, mais pour mieux révéler ce qu'elle efface. Jocelyne Saab, c'est aussi celle qui fait des films comme on restaure des ruines. Très vite, elle comprend que le réel brut ne suffit plus. Alors elle glisse vers la fiction, ou plutôt un entre-deux, à mi-chemin entre documentaire et rêve éveillé. Dont Il était une fois Beyrouth, histoire d'une star, deux jeunes femmes à la fois fictives et si réelles arpentent Beyrouth comme une vieille bobine de pellicule abîmée. Elles cherchent les traces d'un cinéma disparu, d'une ville avalée par les bombes. Toi, l'auditeur, tu es là avec elles, tu vois Beyrouth à travers leurs yeux, leurs souvenirs, leur silence. Le film devient une balade, une enquête, une séance de spiritisme en Super 8. Et c'est ça, Jocelyne Saab, elle filme la mémoire qui sent la poussière, la peur. Les cendres, celles qui restent coincées dans les rideaux d'un cinéma désaffecté. Mais Jocelyne Saab, c'est aussi les femmes palestiniennes qu'elle filme debout dans les camps de réfugiés, des femmes qui ont perdu leur maison, leur pays, parfois leur enfant, mais qui n'ont pas perdu leur regard. Elle tend son micro, elle traduit leurs mots pour que leur voix franchisse les frontières. Écoutez.
D'ailleurs, je ne sais plus ni où je vis, ni comment je vis. Entre le ciel et les avions, personne ne sait où est l'autre. Personne. Et s'il y avait une solution politique, il n'y en aura pas, il n'y aura que la Palestine. Tant qu'il restera un seul de nos fils vivants, il n'y aura pas de solution politique. Il n'y aura que la Palestine, tout entière.
Les femmes palestiniennes sont opprimées sur le plan national. Elles ont été déracinées comme tous les Palestiniens. De plus, elles sont opprimées socialement de par leurs conditions de femmes. Elles ont les mêmes problèmes que les classes pauvres dans la plupart des pays arabes.
Elle les filme sans voix off qui surinterprète, elle leur laisse l'image et c'est fou comme un cadre bien placé peut faire plus qu'un discours à l'ONU. Son combat à elle, c'est de montrer que dans les guerres les plus sales, les femmes ne sont pas des corps tragiques, elles sont des sujets, des combattantes, des narratrices. Ce film-là, c'est de la politique au ras de sol. C'est pas l'Elysée, c'est un hôpital de fortune, c'est pas le bulletin de vote, c'est les noms rayés sur les murs. Dans les années 2000, on parle souvent de nouveau cinéma libanais, celui de Nadine Labaki ou Sia Doueri. Mais Jocelyne Saab, elle était là avant tout le monde, avant que ce soit tendance de faire des plans stylés sur Beyrouth en ruine. Elle l'a filmé comme elle brûlait encore. Elle disait « Mon cinéma est fait pour survivre à la guerre » et franchement, je pense que son cinéma a gagné. Alors là, Jocelyne Saab ne sortira jamais dans 300 salles, mais ses films sont là. Elle nous a laissé une œuvre, pas une œuvre glorieuse, une œuvre vulnérable, humaine, résistante. Et aujourd'hui, si tu cherches un cinéma qui te secoue autrement que par un jumpscare ou un plot twist final, regarde Jocelyne Saab parce qu'il y a des films qui éteignent la lumière et d'autres qui l'allument là où personne ne regarde. Mais pour l'instant, coupe pas, reste encore un peu avec la lumière basse.
Merci beaucoup Maëva, à bientôt pour une nouvelle chronique.
6 heures avant minuit.
C'est l'heure de la chronique Lumière Basse de Maëva.
Et oui, c'est encore moi pour la troisième fois déjà. Bon, installe-toi, coupe les notifs, laisse ton cerveau en mode réceptif. On repart pas pour du grand spectacle, ni pour te vendre du rêve, plutôt pour rallumer une lumière douce, posée quelque part entre le regard et le cœur. Bienvenue dans Lumière Basse. Ici, on ne débriefe pas des super productions, on écoute des silences, on regarde des films qui avancent à hauteur d'humain. Et cette semaine, c'est un film de battements discrets qui nous appelle. Un cinéma qui ne cherche pas l'effet, pas de poudre aux yeux, mais de la lumière sous la peau. Et cette lumière-là, c'est chez Josa Enjambe, Elle brûle doucement, une réalisatrice qui filme sans détour, sans emballage et qui donne à voir, à ressentir ce qu'on ne montre pas souvent. Josa, elle ne meuble pas l'écran, elle le dépouille, elle le cadre juste, elle regarde juste, elle capte la lumière humaine même quand elle est faible, elle fait du cinéma avec la force du réel, avec la justesse d'un battement et c'est pour ça qu'on reste scotché à ses films. Avant la fiction, il y a le docu. Avant la caméra de cinéma, il y a le micro de journaliste. Josa, c'est 10 ans de journalisme avant d'oser la bascule. En 2011, elle prend une caméra en autoproduction. Budget minimal, mais une nécessité brûlante de raconter.
De fil en aiguille, j'ai pu fréquenter à la fois les plateaux de télé, faire des interviews, faire des reportages, etc. Et puis à un moment donné, je m'ennuyais. Je m'ennuyais parce que... Ce que je faisais ne me correspondait pas trop. Alors un jour, j'ai dit « Ok, j'achète une caméra ». Je suis partie pour faire des docs que j'ai auto-financés, auto-produits. Et je me disais « Si ces docs-là sont sélectionnés dans un festival, je continue ».
Elle commence seule, sans plan de carrière, mais avec cette urgence intérieure que certains appellent vocation. Et c'est comme ça qu'elle signe « Massage à la Camerounaise ». Un premier geste intime, un film sur la tradition, les gestes du soin, l'héritage. Puis vient Crump. Là, elle filme un groupe de danseurs à Paris. Pas une performance figée, mais une énergie brute, une pulsation de survie. On y sent déjà ce qui sera sa signature. Un regard sans jugement, une caméra qui épouse le mouvement au lieu de l'observer de loin. Elle ne fait pas de documentaire sur, mais avec. Dans tous ces documentaires, pas de voix off explicative, pas de pathos, juste une confiance absolue dans ce que les corps, les visages et les silences racontent. Josa ne filme pas pour meubler l'écran, elle scrute, révèle, capte la lumière humaine invisible. Elle l'écrit, l'invisible, la couleur de peau, le poids du silence, la fierté d'exister. Et dans ses premiers gestes documentaires, elle a trouvé plus qu'une voix, une manière de voir. Un regard qui écoute, qui épouse le silence autant que la parole, et ce regard-là, elle ne l'a jamais lâché. Alors en 2016, quand elle passe à la fiction avec le bleu, blanc, rouge de mes cheveux, c'est le même fil qu'elle tire, mais tressé autrement, plus écrit peut-être, mais toujours aussi vrai.
C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui est née en France, qui vit dans une famille camerounaise et qui excelle plutôt à l'école et qui souhaite acquérir la nationalité française. Mais son père en fait s'oppose à ce qu'elle devienne française parce que lui il a été déçu par cette France qu'il ne reconnaît pas souvent les qualités, les diplômes des gens qui sont ici de la première génération. Donc lui c'est quelqu'un qui a des rancœurs à l'égard de la France, qui est plutôt son pays d'accueil, et elle, sa fille, c'est son pays de naissance. Donc ça parle de cet espace où on a deux générations qui vivent sur un même territoire qu'est la France et qui n'ont pas le même regard sur cette France-là.
Puis t'as pu passer à la préfecture ?
Ouais, mais il faut que j'y retourne avec la carte de séjour de papa.
Pourquoi, la mienne ne suffit pas ?
Ah, il faut les deux obligatoirement.
Papa ?
Oui.
C'est quoi la préfecture ?
Mange.
C'est là où t'iras faire ta carte d'identité française quand t'auras ton bac, comme moi.
Mais je croyais que j'étais camerounais.
Mais t'es surtout français puisque t'es né ici.
Et pourquoi je peux pas être les deux ?
Tu poses trop de questions, Djibril. Mais de toute façon, c'est comme ça. C'est la loi, faut choisir.
Papa ?
Ça suffit avec cette histoire.
Mais papa, on avait dit que je pouvais faire ma demande après le bac.
Il n'y a pas de mais, papa. Tant que tu vivras chez moi, tu feras ce que je te dis de faire.
C'est l'histoire de Seyna, 17 ans, française d'origine camerounaise, qui veut obtenir la nationalité française. C'est tout. Pas de rebondissement spectaculaire, juste ça, une ado, ses rêves, ses cheveux et un père qui résiste. Et pourtant, tu restes cloué. Parce que c'est écrit avec délicatesse, parce que les non-dits font du bruit. Le bleu, blanc, rouge ne claque pas ici comme un drapeau, il s'infiltre dans une conversation, un malaise, une coiffure afro. Il devient symbole, question, conflit intime, et au lieu d'imposer un discours, Josa pose une ambiance, dense, tendue, mais humaine. Et puis vient Baltringue en 2018, là on change de décor, c'est un ancien détenu, un jeune noir qui tente de réintégrer un club de boxe. 20 minutes d'une tension sèche, tendue comme un muscle qu'on serre pour ne pas trembler. Peu de mots, beaucoup de silence, et Alassane Diong, immense, magnétique, ce personnage-là, tu ne le lâches pas des yeux. Il est rugueux, fatigué, digne, il encaisse. Face à lui, un autre garçon, un regard, une présence, une tension muette, comprimée, rentrée, battue avec les poings. Baltringue, c'est pas juste un film sur la réinsertion, c'est un film sur ce moment précis où quelqu'un se demande « Est-ce que j'ai encore une place ?» Pas une place dans la société, une place dans la vie. Imaginons, tu regardes Baltringue, plan fixe, il respire fort, il se tient mal, il veut s'asseoir mais n'ose pas. La lumière est crue, comme en salle de sport, tu vois la sueur, tu entends son cœur, et toi t'es là, devant ton écran, mais dedans avec lui, il ne dit pas grand-chose, et pourtant il te raconte tout. La honte, la rage, le besoin de rester debout.
En faisant Baltringue, j'ai voulu faire un film sur la question de l'enfermement. À la fois de l'homophobie intériorisée, ça conduit loin quand on exerce des violences à son propre endroit, en fait. Et la question fondamentale à travers cette histoire d'amour, c'est de comprendre comment on peut briser ces barrières-là pour enfin s'épouser, quoi, et être en paix avec soi, quoi. Donc c'était vraiment ça l'idée de départ du film.
Je me sens libre.
Libre enfermé.
Ouais, ça.
C'est ça, le cinéma de Josa en jambes, une émotion tenue, pas de cordes sensibles tirées, pas de violon. Ces personnages ne surjouent pas, ils existent, ils avancent en funambule. Sur ce fil tendu, entre fiction et réalité, on s'identifie, on s'accroche. Il y a des films qu'on admire pour leur technique, et puis il y a ceux qu'on aime avec les triples, ceux qui nous raclent un peu l'âme, ceux de Josa en jambes. Elle ne filme pas pour faire joli, elle filme pour qu'on entende quelque chose, une voix étouffée, une colère douce, une tendresse lucide. Et dans cette époque saturée d'images spectaculaires, ces 20 minutes de vie sont un souffle, une pause, un autre rythme. Un long métrage est en préparation, Abby Muzango. Mais même sans ça, Josa a déjà trouvé sa voix, son art, son exigence. C'est ça, son cinéma, un mur de réalité qu'elle grignote, un espace où chaque plan devient confession. On ne parle pas ici de twist, mais de vérité. Elle ne fait pas de cinéma pour répondre à l'industrie, elle filme pour répondre à l'époque et à ceux qu'on oublie trop vite. Alors voilà, c'est tout pour moi. Mais en attendant, reste là encore un peu avec moi dans la lumière basse.
6 heures avant minuit.
C'est l'heure de la chronique et ce soir, c'est Maëva qui fait sa dernière chronique. Ça s'appelle Lumière basse. À toi, Maëva.
Et oui, c'est encore moi. Voilà, c'est la dernière de Lumière basse. Je me suis dit que je pouvais peut-être finir sur un best-of ou un micro-bêtisier.
Bonne idée.
Ouais, ou un fond musical de Céline Dion, sinon, dans les règles de l'art tragique. Et puis non. Je vais faire ce que je fais ici depuis le début, baisser la lumière et chercher qui tient debout dedans. Alors j'ai préféré vous laisser dans un regard, celui d'une femme qui n'a pas attendu qu'on lui tende le micro, Sépideh Farsi. Née à Téhéran en 1965, à 16 ans, elle tient un appareil photo, elle veut voir, documenter. Pas encore filmer, pas encore faire du cinéma, mais elle est déjà là où ça brûle. Elle est arrêtée, emprisonnée presque un an. À sa sortie, le régime la punit d'avoir voulu voir, d'avoir voulu savoir. Elle est bannie de son pays. Alors elle part. En 1984, elle arrive à Paris, à 18 ans. Elle étudie les maths, enseigne, photographie et doucement, elle revient à l'image en mouvement. Le cinéma des failles, des zones de guerre, des silences politiques, celui qui regarde ceux qui restent pendant que le monde s'effondre. Sépide Farsi, c'est une voix qu'on n'entend pas souvent, mais qu'on reconnaît tout de suite. Ses films avancent à hauteur d'humain, avec toujours cette lenteur électrique, ce calme qui précède ou suit la catastrophe. Elle parle de l'Iran comme d'un territoire de souvenirs, mais aussi comme d'un pays confisqué, qui continue à vivre en elle. Malgré tout, elle filme depuis l'exil, mais elle ne regarde pas le passé, elle le traverse. Ses films, eux, reviennent là où elle ne peut plus mettre les pieds. Téhéran sans autorisation, son premier film, filmé dans l'ombre d'un régime qui interdit les caméras dans une ville devenue zone interdite. Elle y capte les gestes du quotidien, les silences, les regards, la vie qui continue malgré tout, le quotidien de ceux qui restent quand tout incite à fuir ou à se taire. Red Rose, un huis clos tendu en pleine révolution verte, deux amants enfermés, des fenêtres closes et au dehors la rumeur de la foule. La tension circule entre les murs, entre les corps, portée par ceux qui grondent dehors. Et puis en 2023, La Sirène, un film d'animation, une première, une manière pour elle de revenir à la guerre sans la soumettre au réalisme. Elle y raconte la guerre Iran-Irak à travers Omid, un ado resté à Abadan, ville assiégée.
Pour raconter une telle histoire, parler d'une guerre qui est un conflit énorme, qui a vraiment façonné le Moyen-Orient, donc pour parler, enfin, donc des effets de guerre, de raconter des choses qui sont vraiment difficiles à regarder et à montrer en prise de vue réelle, l'animation crée la bonne distance, d'une part. Ça vraiment, ça vient tout de suite ça donne un filtre qui permet de tout montrer, en fait, d'une manière qui puisse être vue même par des plus jeunes.
Mais ce n'est pas un film de guerre, c'est un film contre la guerre. Dans La Sirène, les ruines deviennent des décors presque flottants. Les enfants y parlent d'espoir comme on murmure un secret, l'absurde cohabite avec la tendresse, et dans chaque plan, un refus. Un refus de céder au spectaculaire, refus d'abandonner l'humanité. Son nouveau film « Put Your Soul on Your Hand and Walk » présenté à Cannes en est la preuve la plus nue, la plus vive. « Mets ton âme sur ta main et marche », c'est Fatma Hassouna qui a soufflé ces mots. Des mots simples et foudroyants comme un mantra pour traverser la guerre sans baisser les yeux. Marcher, tenir debout même quand la terre s'effondre, mettre son âme au creux de sa paume, l'exposer à la lumière et continuer.
Fatma Hassouna, donc moi je l'appelais Fatem parce que les proches l'appelaient ainsi. Et elle était donc une jeune femme née à Gaza, morte à Gaza. Elle n'a pas pu voyager, jamais sortie de Gaza. Elle en avait très envie, elle en parlait tout le temps. Elle avait eu 25 ans en mars, elle a été assassinée le 16 avril. Donc. Au Caire, j'ai commencé à filmer des réfugiés palestiniens dans un premier temps pour savoir ce qui leur était arrivé. Ils venaient juste d'arriver de Gaza et l'un d'eux m'a parlé d'une jeune photojournaliste, voilà, Fatem, qui était encore au nord de Gaza et qui était une fille formidable. Elle photographiait déjà Gaza, la vieille Gazaoui. Elle est devenue mes yeux, donc en parlant de son quotidien et en partageant ses images. Israël a eu cette pratique de d'abord virer les noms palestiniens et puis de commencer à tuer les journalistes palestiniens. Et donc, de fait, elle s'est sentie encore plus investie d'une mission. Je pense que c'était important pour elle de documenter la guerre et le génocide. Elle disait que, à des moments pareils, elle avait comme une voix dans sa tête qui lui disait « Fatem, prends, prends, c'est important que les gens voient ça ». Elle me disait « Moi, je pense qu'il faut que je capte tout ». Que j'envoie, et c'est aux gens de faire leur choix de regarder ou de ne pas regarder, mais il faut qu'ils soient confrontés à la réalité.
À Gaza, c'est elle, Fatem, qui regarde pour s'épider. Son regard, son calme, un sourire immense, presque insolent, au cœur des ruines. Elle filme à travers l'écran d'un téléphone, dans l'attente, dans le vacarme, dans les coupures de courant. Les silences disent tout autant que les bombes. Un jour, la voix de Fatma s'éteint. Farsi ne lui a pas seulement prêté sa caméra, elle lui a prêté son souffle.
Il m'a semblé que dans toute l'analyse qui était faite et toute la couverture médiatique sur cette guerre, ce conflit, il manquait un morceau important dans le puzzle, et c'était le point de vue palestinien des civils gazaouis. Personne n'en parlait, on n'entendait pas leur voix, on parlait d'eux, mais en tant que chiffres et statistiques, les Palestiniens ont été déshumanisés, on l'entend tout le temps. Bon. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour défaire cette déshumanisation? C'est ça, c'est précisément avoir des histoires, des visages, et pour que ces chiffres deviennent des êtres. J'ai eu envie d'aller chercher cette voie.
Et dans ce film, Gaza parle, Gaza aime, Gaza résiste, loin des chiffres, loin des décomptes, près des visages, des gestes, de la beauté. Sépide Farsi ne filme pas juste la guerre, elle filme ce que la guerre fait à ceux qui continuent à aimer, à manger, à rire, à tomber amoureux, même quand tout autour est ruine. Ces personnages ne crient pas, ils avancent à pas feutrés, avec cette manière de tenir bon, sans faire de bruit. Ils gardent la face, oui, mais quelque chose en eux tremble. Dans ce calme, il y a une tension sourde, presque insoutenable, mais là, prête, immense. Ces films sont des lieux, plus que des histoires, on y rentre comme on rentrerait dans une maison abandonnée. Il reste les traces, un plat à moitié mangé, une radio allumée, un souffle sur une vitre, et toujours quelqu'un qui reste, quelqu'un qui refuse de partir. Sépide Farsi, c'est une femme qui ne demande pas la place, elle la crée. Elle la creuse, image par image, elle n'a pas attendu qu'on la laisse filmer, elle a inventé une forme, un langage, un espace à elle, où la poésie devient politique et la mémoire un acte de résistance. Alors voilà, c'était Lumière Basse, ma dernière tentative de vous parler dans la pénombre, mais quelque chose continue dans les films qu'on regarde sans faire de bruit, dans ces silhouettes qui prennent toute la lumière, mais quand on les cadre, même quand on les cadre en contre-jour. Ce n'est pas une fin, les voix basses ne disparaissent pas, elles s'enfouissent dans la bande-son, elles se glissent sous les dialogues, elles reviennent quand le silence est trop grand. Merci à toi, Héloïse, de m'avoir laissé hausser la voix pour celles qu'on n'écoute pas assez.
Merci Maëva, et c'est la dernière cette saison, mais tu reviens quand tu veux, bien sûr, la saison prochaine, pour poursuivre Lumière Basse.
Sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs vitaux.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe.
La radio sauvage.